Un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto.
Zoulou, peut-être.
Je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoulou.
Avec l'attaque d'Antichlec, là, c'est Dybali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, hein, ce mardi 23 juillet, pour parler de la 16e étape du Tour de France, Nîmes, une boucle autour de Nîmes, tout simplement. Avec moi pour en parler, Charles. Bonsoir Charles.
Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous.
Greg également, bonsoir Greg.
Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous.
Et enfin Théo, bonsoir Théo.
Bonsoir tout le monde.
Alors, une étape où il s'est... Alors, on aurait pu dire qu'il ne s'était pas passé grand-chose, mais en fait, si, il y a beaucoup de choses à dire. Une échappée de 5 coureurs avec Wisniewski, Goujard, Rossetto, Bach et Urselin qui animent l'étape. Très peu de temps leur est laissé, Greg, mais finalement, ils ont failli résister.
Oui, ils ont eu quoi ? Peut-être maximum 2 minutes et quelques, hein, mais c'est souvent resté autour d'une minute 30. Mais c'est vrai qu'ils sont restés après à 30-40 secondes pendant très longtemps et je crois qu'ils sont repris qu'à 4 ou 5 km de l'arrivée. Hein, en arrivant dans Nîmes, ils ont un peu profité à la fin de tous les ronds-points, d'arriver donc dans l'agglomération pour garder un peu d'avance. Mais voilà, comme tu l'as dit, surtout ils n'ont pas eu, enfin, je pense que si vous vous souvenez, ils n'ont vraiment pas eu beaucoup d'avance. Les équipes, vu la chaleur, vu la fatigue, ils ont décidé de pas laisser trop de champ à l'échappée. De pas prendre
et
de
risques.
Ils ont
raison. Ils ont,
enfin, c'est leurs intérêts. C'est peut-être pas le nôtre, ou. Mais effectivement, c'est leur intérêt de la jouer comme ça. C'est ce qu'on voit depuis le début du tour finalement. Très peu d'avance pour les échapper, mais là, c'est encore en pire.
Charles, je dis également qu'ils ont une raison parce qu'ils ont eu du mal à les rattraper, notamment du fait qu'il est difficile de faire de gros efforts sous une canicule pareille, et également parce que ce qui a joué un mauvais tour aux échappés, c'est le vent de face qu'il y avait dans les 20 derniers kilomètres.
Ouais, c'était logique effectivement que le peloton ne laisse pas beaucoup de marge à l'échappée, parce que tu l'as dit, la chaleur était présente, et en plus je pense que tous les coureurs sont dans un état de fatigue très avancé, donc on sentait sur la fin que c'était très très dur de revenir. Je crois qu'il y avait entre 15 et 20 secondes quasiment pendant 5 ou 6 kilomètres, et ça a été très long à boucher. Donc pas surpris de voir au final le peloton accorder peu de marge aux échappés qui ont bien résisté, mais malheureusement ils se sont fait reprendre sur la fin.
Alors tout cela mène à un sprint que remporte Caleb Ewan, qui signe donc un doublé sur ce Tour de France, devant Ilia Viviani, Dylan Groenewegen, Peter Sagan et Nicolo Bonifacio, qui signe de fait le premier top 5 et même top 10 de la Total Direct Energy sur ce Tour de France. Théo, un sprint houleux avec encore une fois une manœuvre assez illégale, presque j'ai envie de dire, de Maximiliano Ricciese qui se décale à peine lorsqu'il a fini de lancer son sprint, et ce décalage n'est dû qu'à la volonté de bloquer Caleb Ewan.
Ouais, Ricciese, c'est la troisième fois sur ce tour, je pense qu'on en parle. L'arrivée à Nancy, Jeanne Christophe, ensuite dans le sprint à Albi, si je dis pas de bêtises, il s'accroche avec Philipsen, encore de la même équipe que Christophe et Peter Sagan. Et là, il y a cette manœuvre sur Caleb Ewan. Ça, c'est rien que sur ce tour, mais ça fait des années qu'on le voit, et en fait, ça fait partie de la stratégie du lanceur. Le lanceur, il a un double effet, enfin, en tout cas, dans la façon dont Ricciese le conçoit, c'est de lancer son sprinter et ensuite bloquer les autres. Et je trouve que c'est un comportement qui est extrêmement dangereux. On voit que tous les mecs derrière sont obligés de faire une petite vague pour l'éviter. Si c'est un sprint avec plus de sprinters sur une plus petite route, ça peut vraiment faire un carnage. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas de pénalité ou que des coureurs se plaignent pas plus que ça. Mais c'est aussi des sprints qui sont décousus parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui arrive à aligner et mettre le peloton en file dans les derniers kilomètres. La Duncan Quickstep est la mieux organisée, mais ils attendent plutôt le dernier moment pour dans les derniers kilomètres être à 3. Et avant, il n'y a pas vraiment d'équipe qui arrive à rester devant très longtemps, surtout en fin de tour. Enfin, l'équipe du sprinter qui est peut-être le plus rapide, la Jumbo avec Degan Groenewegen, bah, ils n'ont plus vraiment de matériel avec la chute de Van Aert et l'abandon de Van Aert. Et du coup, ça donne des sprints comme ça très décousus.
Charles, Théo dit, je comprends pas qu'on ne fasse rien sur de tels comportements. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que déontologiquement, on ne peut pas non plus sanctionner le sprinteur. C'est l'équipier, c'est pas lui qui est responsable. Il peut tout à fait dire, non mais je lui demande pas de se décaler, même si ça le sert à lui. Ça serait terrible de sanctionner quelqu'un qui n'est pas responsable. Alors on fait quoi? Au bout de deux fois où le gars fait ça, on le dégage, comment on fait?
Ouais, bah je pense que c'est assez simple, on le dégage de la course. Enfin, Richezé, il a un comportement archi dangereux, et Théo l'a dit, c'est pas la première fois. Je serais contre le fait de sanctionner Viviani, parce que le pauvre, il y peut rien, puis on peut pas sanctionner quelqu'un pour la faute d'un autre, ça serait profondément injuste. Mais Richezé, il n'a plus rien à faire sur la course. Enfin, je pense que l'UCI devrait prendre des mesures assez radicales, parce que malheureusement, si on attend qu'il y ait un accident, mais à la vitesse où se déroulent les sprints, ça peut être terrible et ça peut mettre fin à des carrières ou à des saisons pour d'autres coureurs, quoi.
Greg, même question sur le chat. Ça dit, c'est partagé entre exclusion directe ou avertissement, et la deuxième fois hors course, nous dit Mathieu.
Le souci pour Riquezé, c'est que c'est pas la première fois. Hein, on avait déjà fait la remarque une autre fois. C'est quasiment à chaque sprint, il fait pareil. Il se relève en plein milieu et, enfin, de la route, et donc à chaque fois il frôle ou les autres sont obligés de faire un écart pour l'éviter. Et donc oui, je pense aussi, bon, il faut trouver un moyen de sanctionner ou de rappeler à l'ordre l'équipe. Hein, bon, même si ça passe que par une amende au début, mais au moins un premier avertissement. Que ça arrive une fois, bon, passons. Alors, imaginons l'inverse. Si jamais il y a un coureur qui fait ça à un de ses coureurs, je pense que Lefebvre, il devient fou aussi. Hein.
Ah,
Il
ça
se
va
plaint.
tweeter, ça va tweeter, ça va tweeter.
Voilà, il aurait balancé comment ça se fait, on a gêné mon coureur, etc. Donc, les autres sont bien gentils quand même, je trouve. Hein, il y a quand même, finalement, après, voilà, c'est le milieu. Hein, on ne se plaint pas. Voilà, moi, ça me dérange un peu que on n'entende pas plus de voix qui se plaignent, parce que je trouve que c'est vraiment, c'est les équipiers qui se relèvent en plein milieu du sprint, je trouve ça vraiment dangereux.
Oui, parce qu'on parlait avec Charles. Et toi-même, lors du coin Cocorico d'avant-tour, de la dangerosité de Bonifacio, au final, sur ce Tour de France, il n'y a pas de problème pour lui. Mais par contre, quand on voit Richezé, c'est pas la première fois. Il y a De Kooning, on se rappelle qu'ils ont également fait barrage à mettre un coup de coude pour celui qui voulait passer, qui manque de se casser la gueule. Je trouve que ça fait beaucoup, et puis tant que tu sanctionnes pas, ça fait un double effet. Le premier, c'est que les coureurs, ben, ça ne les arrête pas, ça ne les intimide pas. Et le deuxième, c'est qu'ils se croient tout permis et ça devient n'importe quoi. Donc c'est un problème qu'il va falloir régler. En parlant de comportements dangereux, même si c'est pas tout à fait ça, parlons maintenant du classement général, parce qu'on va pas faire toute
Vu
l'émission
que Calebé-Ouane, il
sur un
était
sprint.
très fort quand même sur le sprint pour
Oui,
terminer.
c'est vrai, Caleb Ewan,
Un
il
point sur
confirme,
deuxième victoire
et
et.
comme Laurent Jalabert l'a dit, c'est le champion de l'étape après la journée de repos, Craig.
C'est ça, non mais juste pour rappeler, enfin bon, pour signaler à ceux qui n'ont pas vu le sprint, qu'il a été. Il part d'assez loin finalement. Il part d'assez loin, il surprend un peu pour pas justement se faire enfermer. Et il surprend un petit peu les autres hein, qui n'ont pas réussi à rivaliser. Mais donc oui,
Ouais.
c'est le premier à avoir deux victoires.
Et il surprend notamment Groenewegen parce que je pense qu'on peut encore parler un petit peu du sprint.
Vas-y.
C'est un équipier de la Lotto qui emmène avec Groenewegen directement dans la roue et qui se relève assez vite. Et là, il y a la Quick-Step qui déborde tout le monde. Et donc là, je me suis concentré sur Groenewegen parce que je pensais que c'était le favori sans trop faire gaffe à Ewan. Et je me dis, ah, il s'est coincé, il est bloqué. Effectivement, il a été bloqué un peu dans son sprint. Mais Ewan, très intelligemment, il est lancé de bien plus tôt. Et en vrai, s'il est gêné par Richezé, c'est aussi parce qu'il retourne un peu vers Richezé pour chercher de l'aspiration. Et si on peut, enfin, t'as mentionné le sprint de Nicolo Bonifazio, enfin, vraiment, sur ce sprint-là, c'est le gars qui arrive avec le plus de vitesse. C'est enfin pour la Direct Energy un signe de, enfin, un élément positif dans ce tour, parce qu'à part l'échappée dans le Tourmalet de Sicard et Calmejane, ça a été très compliqué. Et sinon, encore une fois, il y a Greipel qui a été enfin, catastrophique. J'ai essayé de l'observer aussi un petit peu en regardant les replays. Et à 600 mètres, en fait, il est déjà dans le roux. J'ai à un moment donné, il essaye de se lever, enfin, de se mettre en danseuse pour accélérer. Et ben, il tient peut-être 5 coups de pédale avant de se rasseoir, quoi. Il est complètement carbonisé.
Charles.
Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi, Théo. Je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait Greipel. On oublie vite, mais il signe quand même son troisième top 15 depuis le départ du Tour de France.
Sur cette étape, je vais pas trop me moquer puisqu'il est quand même vieux. Enfin, pour un cycliste, je pense que plus tu es âgé, plus la canicule, ça doit faire souffrir. Après maintenant, non mais alors c'est vrai que ça peut paraître drôle.
Type second
mais...
degré.
Non mais en fait c'est du premier degré. Je pense que vraiment les coureurs sont fatigués, surtout que c'est pas un coureur qui est affûté, il a beaucoup de muscles, il doit souffrir et puis de toutes les façons on voit qu'à l'instar de Cavendish, il a vraiment beaucoup de mal à frotter. Warren Barguil, très fort, le ramène deux fois, trois fois dans les derniers kilomètres, mais chaque fois il perd sa roue parce que c'est équivalent au pire démarre.
Greipel, faut quand même le dire, il y a un souci, enfin, il y a un recrutement qui est quand même assez curieux chez Arkea Samsic, qui, si je ne me trompe pas, il marge environ à 800 000 euros par an. Et il a gagné une victoire depuis le début de l'année sur la Tropical Amissa Bongo. Et encore, il s'est bien fait balader sur la course. Et il a eu du bol d'en claquer une. Quand on voit que... Enfin, c'est pas le sujet du jour, mais quand on voit qu'on va aller chercher Quintana, qui a l'air en grande difficulté, ça amène à se questionner, je trouve.
Ouais, c'est un enchaînement de noms avec des coureurs qui ont peut-être un certain âge. Ça fait penser peut-être au recrutement de l'OM. Non. Bon, on va passer à la course des favoris parce que, comme je disais en début d'émission, il s'en est passé des choses, Théo. On va commencer par l'abandon. C'est Jakob Fuglsang qui abandonne après avoir chuté à la première étape. Il rechute, et cette fois-ci, assez gravement pour ne pas repartir.
Ouais, je crois qu'il a eu un problème au poignet. Après, j'ai pas vu Fuglsang, j'ai pas vu d'image de la chute de Fuglsang. J'ai juste vu les images un peu, je pense, comme tout le monde, de ses équipiers autour de lui et de lui qui abandonne. Fuglsang, c'était plus vraiment un favori pour le général. Il était déjà distancé, il avait montré des signes de faiblesse. On pouvait penser qu'il allait se remettre un peu dans les Alpes, mais c'était pas sûr. Surtout, en fait, ça va changer la manière dont Astana va courir. Et je pense que maintenant, enfin, pour la dernière semaine, on risque d'avoir une ou deux victoires d'Astana, ça ne m'étonnerait pas. On va les revoir comme on a l'habitude de les voir en fait, sur la plupart des courses, très offensives, très entreprenants.
Greg Fuglsang avec Bardet, c'est quand même le gros flop de ce tour. On pourrait rajouter Adam Yates également.
Mais oui, c'est vrai, mais si on se rappelle, vu la saison qu'il fait, c'est vrai que c'est un des coureurs qu'on voyait très haut hein, dans l'hierarchie. Il faisait vraiment une très grosse année, il avait été surprenant sur les classiques. Donc c'est un des coureurs qu'on attendait, car s'il avait conservé son niveau des classiques, eh bien je pense qu'on aurait, que je vérifie avant que je dise des bêtises. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en plus il gagne le Dauphiné. Il gagne le Dauphiné, ce que je voulais dire. Et donc évidemment quand on gagne le Dauphiné, on arrive souvent comme un favori, sauf Fuglsang. Je crois qu'en 2017 aussi c'était le cas. Si je ne me trompe pas, il chute, il gagne le Dauphiné, il chute aussi.
Il chute et je crois qu'il... Je ne sais plus s'il abandonne ou pas, mais je me souviens dans les Pyrénées, il était lâché très tôt parce qu'il
l'étape
avait...
L'étape d'après, ouais. Donc, voilà, c'était une des déceptions de ce tour. Peut-être à voir si la suite de sa saison ou l'année prochaine, ce qu'il fera. Mais là, malheureusement pour lui. Par contre, ça a tout changé chez Astana, mais ça, on en reparlera peut-être pour demain.
Ouais, et puis, c'est un coureur qui vieillit, Charles, qui n'a jamais fait d'exceptionnelles performances sur un grand tour. On en parlait pour Richie Porte ce week-end. Je pense que maintenant, son tour, en prenant en compte les grands tours, est définitivement passé.
Pour Fuglsang, ouais, je pense. Oui. Clairement. Enfin, d'ailleurs, Richie Porte, pareil, malheureusement. Mais il a 34 ans, si je ne me trompe pas. Fuglsang, moi, je veux dire, j'y ai jamais vraiment cru. Pour ce tour, mais bon, je croyais en Quintana, donc je vais pas trop me la péter non plus. Et je trouve qu'on peut pas s'improviser grimpeur à passer 30 ans, donc je le voyais pas passer ce palier en fait en montagne pour être capable de briller. Comme
et enfin, il y a eu une chute avant celle de Fuglsang en début d'étape aux alentours de 40 km/h, et c'est presque, on a lu ici et là running gag. Puisque Fuglsang a l'habitude de tomber, mais celui qui tombe, c'est-à-dire Geraint Thomas, tombe encore plus que lui. Il est déjà à sa troisième chute sur le tour. Et on ne peut pas dire que les chutes, même s'ils disent « il n'y a rien », sont anodines. Théo, ça s'accumule, et puis de toute façon, tu tombes à 40 km/h, tu te fais forcément mal.
Oui, désolé pour la mention de nouveau de ce nom, mais après la chute de Fuglsang, j'écoutais... Hincapie et Armstrong qui ont un podcast et qui disaient forcément ça va laisser des traces, c'est impossible que ça laisse pas de traces. Tu dors moins bien et forcément bah, ton niveau baisse dans les prochains jours et pas forcément le jour d'après, mais enfin le jour d'après et ça continue parce que en fait c'est du retard dans la récupération que tu accumules donc ça sent pas très bon pour Thomas dans les Alpes. Enfin, ça c'est mon avis, mais surtout je ne comprends pas comment il est tombé quoi. Enfin, il est tombé avant le virage, enfin, c'est assez étrange.
Ouais, alors il y a l'hypothèse comme quoi sa pédale droite aurait touché, parce qu'en effet, quand il tombe, on voit la jambe droite qui est vers le sol, la jambe gauche donc vers le haut. Je comprends pas comment il peut se rater comme ça. Ou alors juste avant, il y avait un pif-paf, c'est-à-dire ça tournait à gauche puis à droite. Mais dans ce cas-là, enfin, je comprends pas. Personne ne comprend. On a discuté avant, personne n'a d'hypothèse qui valent le coup. En plus, son vélo semble complètement se bloquer. Incompréhensible. Mais oui, Charles, comme disait Théo, ça va compter ses chutes. Il est surtout pas du tout dans une spirale positive.
Ouais, c'est vrai que bah, d'abord le coup de la pédale c'est bizarre hein, parce que enfin bon je pense que tous ceux qui sont sur le chat sont montés un jour sur un vélo et on sait tous dès qu'on est gamin que quand on prend un virage la jambe qui est côté intérieur elle est en haut et enfin c'est inné j'ai envie de dire quoi à aucun moment tu as envie de te dire que ta pédale va être en bas côté intérieur donc même si sur la vidéo ça paraît être ça c'est quand même vachement curieux je trouve c'est je comprends pas trop comment c'est possible, mais bref, pour passer à la suite, Thomas, c'est vrai qu'il est tombé 3 fois. Il a perdu du temps dans les Pyrénées, donc je pense que mentalement, il va être un peu atteint, sachant qu'aussi, il sort pas d'une saison exceptionnelle. Donc franchement, je le vois pas du tout remporter le Tour de France. Je le vois continuer à perdre du temps. Si ça se trouve, j'aurai l'air d'un con samedi soir, mais je serais vraiment très très surpris s'il remportait pour la 2e fois consécutive le Tour de France.
C'est vrai que ça serait surprenant, Greg, surtout que Geraint Thomas, mais comme on l'a dit, ses blessures vont se ressentir. Et en plus, avec la canicule, c'est vraiment pas bon pour récupérer.
À voir, c'est vrai que sa chute, enfin, est très bizarre, elle est très étrange. Hein. C'est vraiment l'impression un peu de la maladresse ou quelque chose comme ça. C'est un peu l'impression qu'on a. Et comme il tombe souvent, souvent on dit il n'y a pas de hasard. Hein. Quand on tombe très souvent, c'est qu'on est pas. Ça arrive hein, des coureurs qui soient un peu moins adroits, un peu moins attentifs. Donc à suivre. Moi aussi, je pense que ça commence à faire beaucoup pour lui. Hein, quand une chute, ça peut arriver, mais au bout d'un moment, ça va peser. Et surtout quand on a un coéquipier à côté qui est très fort, hein, et à un moment où il faudra aussi que Ineos risque vraiment de perdre le tour, ils vont peut-être choisir de faire donner les clés du camion à Bernal, parce que si Thomas donne des signes de faiblesse, à mon avis, ils vont pas hésiter et donner finalement toute, enfin, tout miser sur Bernal.
Moi, j'ai une hypothèse là qui vaut ce qu'elle vaut sur Geraint Thomas sur sa chute. On sait qu'il y a plusieurs coureurs qui ont dit qu'ils étaient vraiment pas bien pendant l'étape à cause de la chaleur, tout ça. C'était vers le début de l'étape, hein, donc avant que tous les coureurs puissent se mettre de la glace sur la nuque, tout ça. Ça pourrait pas être tout simplement une inattention due à un petit malaise, ne pas se sentir bien. On sait qu'il n'est pas forcément super à l'aise sous les fortes chaleurs. C'est possible, hein?
Oh, c'est possible, un micro-malaise, quelques secondes, enfin quelques
Une
minutes.
inattention,
Ah, je pense
une
pas quand même.
inattention. Oh, non, mais alors peut-être pas mal, mais une inattention, tu sais, t'as la tête qui tourne un peu, quoi. Je vais juste te dire ça, tu sais, t'es pas lucide au moment. Je pense que c'est ça, c'est un manque de lucidité pour se rétamer comme ça. C'est le seul, et enfin, j'ai jamais vu ça en fait. Des gars qui se prennent la pédale en redémarrant trop vite, comme Thibaut Pinot dans la descente du col de Vars, si je me trompe pas. En 2015, ça je comprends, tu vois, tu veux relancer vite, ah ben bon, ben raté. Et ça prend un col, donc tu as un peu moins de lucidité. Mais là, c'est plat, il y a aucune raison qu'il tombe, en fait, que ça lui arrive.
Moi, ben,
Je sais pas.
on
Donc
verra
voilà.
ça les prochains jours.
En tous les cas, on va voir. Oui, peut-être au final, il va être super fort dans les Alpes, mais pour le moment, j'y crois de moins en moins. Alors, on va parler de l'étape de demain. Demain.
Justement, Quintana perd encore du temps, hein.
Quintana, Gaudu, Kruisinga, mais Kruisinga, il n'a pas de chance, il crève, mais Quintana, ouais. Et en plus, j'ai pas l'impression que ce soit voulu, Théo, parce que Quintana, on le voit parler à sa radio au moment où il est lâché.
Apparemment, ça serait ses vitesses à Geraint Thomas. Je suis en train de lire enfin, la réaction sur le site du Team Ineos. Apparemment, il avait juste une seule main sur son guidon. Et ses vitesses se sont un peu emmêlées et il a été jeté de son
Mais
vélo en passant
ça
le
colle pas.
virage.
Ça colle pas du tout.
Ah,
Ça
je sais
colle pas
pas,
du tout.
je
Parce
lis à l'instant
que la vitesse, ça te bloque la roue arrière, mais lui, il se fait propulser comme si c'était la roue avant qui se bloquait. Parce que quand la roue arrière s'arrête, tu pars sur le côté, mais tu tombes avec le vélo. Mais là tu te fais bas... enfin, c'est une vraie bascule, comme
C'est les
sa
vitesses
chute.
qui auraient sauté apparemment. Enfin, c'est sa réaction en tout cas. Après, je.
Ouais, ou alors la vitesse chute, ça lui bloque la pédale qui du coup réaccélère au moment où il est viré.
Puis avec une seule main
Il
sur le guidon,
paraît.
du coup, ça peut. Enfin bref, c'est pas non plus vital, mais c'est. Allez voir si vous le souhaitez sur le site du Team Ineos, vous
Ouais.
verrez sa réaction.
Donc Théo, revenons sur Quintana.
Oh, bah, j'ai pas grand-chose à dire pour Quintana et de toute manière, je suis pas sûr que ce soit, enfin que ce soit fondamental. Bon, avec l'abandon le sang, qu'il est remonté, il est plus très loin du top 10, mais Quintana, au mieux, il fait un fond de top 10, quoi. Enfin, c'est vraiment plus.
Attention à l'altitude qui peut l'avantager pour un top 10, hein. Je parle pas pour plus, il est à 9 minutes 30, c'est terminé pour la bataille pour le classement général. Ou alors il va se passer encore des choses non prévues sur ce Tour de France. Donc l'étape de demain, Pont du Gard, Gap, on sera déjà à la 17e étape et la dernière étape avant les Alpes. Théo, Gap, c'est une étape où il se passe toujours quelque chose.
Alors c'est une étape où il se passe toujours quelque chose et quand on voit le profil, on peut se faire piéger, on peut penser que c'est l'enchaînement du col de Mans, c'est de sa descente surtout. Je parle avec votre contrôle, hein, ça se trouve je dis des bêtises,
Oui,
mais je
non,
crois
c'est
que c'est le
ça.
col de Mans, c'est sa descente vraiment vertigineuse. Là en fait c'est le col de la Sentinelle qui est pas très compliqué, c'est 5,2 km à peu près 5%, mais bon après le pourcentage moyen faut s'en méfier parce que le col est assez irrégulier. Mais la descente n'est pas très 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 technique, donc ça devrait pas être un moment clé, un moment de basculement pour le général. Mais bon, après un final en descente, il peut toujours se passer des trucs. Un gars qui fait une faute bête, ça peut quand même arriver.
Si vous voulez voir à quoi ça ressemble ce final, vous tapez This Man 38 sur YouTube et il a mis les 20-25 derniers kilomètres de l'étape de 2006. Donc vous verrez comment c'est. Il y avait eu beaucoup de dégâts d'ailleurs dans ce col. Avec la canicule, il peut y avoir des dégâts, mais également, Charles, il y a des risques d'orage.
Ouais, on était tous les quatre sur les différents sites de météo tout à l'heure afin de guetter un peu ce qui pouvait se passer. Et apparemment, il y a encore de fortes températures à prévoir et environ entre 30 et 50% suivant les sites de risque d'orage à Gap au moment de l'arrivée. Donc, faut voir si jamais l'orage tombe au moment où les coureurs abordent la descente du col de la Sentinelle. Ça peut rendre les choses compliquées. À vrai dire, on l'espère pas pour la santé des coureurs. Mais ça sera un élément à prendre en compte, en tout cas.
Alors, canicule ou orage, encore une fois, Greg, il semble que Gap va nous proposer du spectacle.
Ben, on verra. Alors, est-ce que. Alors, moi, je pense que ça sera peut-être pour les échappés. Parce que, ben, déjà, il n'y a pas de point bonus au sommet de la côte de la Sentinelle. Donc, les favoris vont, à mon avis, laisser partir l'échappée. Par contre, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas certains coureurs qui ont intérêt à attaquer dans le col de la Sentinelle pour grappiller quelques secondes, hein? Alors je pense à Alaphilippe. Est-ce que voilà, est-ce qu'il va s'économiser pour demain parce qu'il avait l'air quand même assez fatigué là en fin de journée? Ou alors est-ce qu'il va tenter? Ben, il se dit c'est ma chance, je veux pas avoir de regrets. Est-ce qu'il va pas tenter de grappiller des secondes? On sait que c'est un très bon descendeur, donc est-ce qu'il va pas profiter, mettre à profit là? La courte descente pour gagner un peu de temps, ça à suivre, ça à voir.
D'ailleurs, en parlant d'Alaphilippe, on a eu un petit débat entre nous tout à l'heure, à savoir, puisqu'il a zappé le protocole pour ne pas répondre aux interviews de la zone mixte et ni conférence de presse, est-ce qu'il est vraiment cramé? C'est vrai qu'il paraissait très fatigué lors de l'interview, mais j'ai vu qu'Ewan également, les coureurs avaient vraiment les traits tirés suite à la chaleur. Ou est-ce que justement, c'est. Bon, ben, il pense qu'il peut avoir des chances de gagner, mais dans ce cas-là, il faut privilégier un maximum la récupération. Et tout simplement zapper les obligations, même si ça posera problème par la suite, Charles, oui.
Ouais, justement, je repense tout à coup à un truc avant l'émission. Pour être honnête, on discutait des possibles sanctions et justement de l'absence de sanctions quand on séchait le protocole, ce qui n'est pas normal. Il y a des obligations, enfin, c'est normal, c'est le truc qu'il faut. Mais je pensais par exemple, pourquoi ne pas essayer de trouver des sanctions adéquates, genre bah, tes maillots jaunes, tu sèches la cérémonie, enfin, pas la cérémonie protocolaire, mais les interviews, et ben on te retire, je sais pas, 20 secondes, tu vois. Genre tes maillots verts, on te retire 20 points en classement par point, idem pour le maillot à poids, etc. Et là, on serait sûr que bah, les mecs, ils se pointeraient comme.
Mais en tout cas, il y a pas mal de choses puisque j'étais à Albi lors de la journée de repos et personne ne me disait qu'il y a plusieurs coureurs qui avaient refusé d'aller voir les invités. Vous savez, il y a toujours des politiques, tout ça. Pas le temps, trop fatigué, sachant qu'on était donc à l'arrivée d'Albi la veille d'un jour de repos. Donc c'est des choses que je n'avais pas. Donc je n'avais pas vent autrefois et faudrait les sanctionner très vite parce qu'on va se retrouver sinon sans aucune interview. Et le port du maillot jaune, ça sera sans souci pour les coureurs puisqu'ils se refuseront à faire les interviews ou quoi que ce soit. Donc à voir. Messieurs, quelque chose d'autre à dire sur Cap?
Non.
Dans ce cas, on passe au pronostic. Donc aujourd'hui, il y en a trois, plus un, puisque Alexandre Pasteur nous a
Alexandre Payou, Alex
proposé.
nous a pas envoyé
Ah, Bayou, pardon,
de
excuse-moi.
prono.
Un autre pronostic. Donc, les trois pronostics, c'est le vainqueur de l'étape. Est-ce que ça sera échappé ou peloton? Et également, à la minute près, à combien termine Alaphilippe, donc le maillot jaune, du vainqueur? Donc, si c'est même temps, 59 secondes, c'est zéro. 1 minute à 1 minute 59, c'est 1. 3 minutes à 3 minutes 59, c'est 3, etc. Et également, combien d'Astana dans l'échappée de demain? Donc, Charles, tu commences.
Ouais, alors bah, victoire de l'échappée, je pense. Donc victoire de l'échappée, elle est au pif, je veux dire 13 minutes de retard pour Alaph qui finira au sein du peloton. Et la dernière, c'était le nombre d'Astana. Je veux dire 3 Astana dans l'échappée demain.
Et qui est le vainqueur?
Ah, le vainqueur, pardon, bah, j'ai pas réfléchi à la question. Luis Leon Sanchez. Ah,
D'accord. Je vais le dire. Merde.
À toi.
Ah ben non, tu m'as grillé, Luis Leon Sanchez.
Désolé,
Alors
Greg.
je vais prendre, bah, je vais un peu changer pour, je vais prendre Julien Bernard.
Ouais.
Oh
Échappé
ben,
donc.
en échappée, tout à fait. Et moi, je vois beaucoup moins d'avance pour l'échappée. Je vois que 2 minutes d'avance.
Et pour les Astana?
Il y en aura deux.
Ok. Théo, alors Théo, on ne vous l'a pas dit, mais il y a eu un changement au classement des pronostics, puisqu'il s'est fait bouter de sa première place, comme un vulgaire sprinter à l'aube des montagnes. C'est Alexandre Rollet et Greg qui sont en tête devant Théo et Charles. Donc Théo, vas-y, essaie de récupérer ta couronne.
Moi, je vois bien sûr une victoire de l'échappée. Au pif total, je veux dire 13 minutes de retard. Je vois bien 3 Astana devant. Ultra motivé après l'abandon de Fuglsang. Et bah, du coup, pour rester cohérent, je vois bien une victoire de Lutsenko qui a une bonne forme. Et c'est l'étape un peu parfaite pour lui parce qu'en haute montagne, il est quand même limité quand on n'est pas dans la pré-saison, quoi.
D'accord, pour ma part, le vainqueur Matthews, mais dans l'échappée. Et il y aura 9 minutes d'avance. Et quant au Astana, ils seront deux dans cette assez grosse échappée. Donc voilà pour participer, soit dans le chat, mais plus facilement en commentaire de la vidéo quand celle-ci est disponible. Puisque vous aurez un peu plus le temps, vous avez jusqu'au départ de l'étape pour le faire. En attendant, on vous dit à demain soir, 19h30 toujours, on sera au pied des Alpes. Vivement, on espère qu'il n'y aura pas trop de casse demain et une belle victoire des échappées. Allez,
Ouais.
bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Salut.
Salut.